sur Radio G, 101.5 FM. Il est 13h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct va vous présenter de nouvelles manières de voyager et de découvrir l'Europe avec Claudine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors je crois que je suis là parce que je suis une grande voyageuse. J'ai 65 ans. Je suis retraitée depuis 2011 de l'éducation nationale et je voyage beaucoup depuis mon départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que je suis passionnée, je suis quelqu'un qui vit selon ses coups de cœur, ses appels du grand large et j'ai toujours voulu vivre intensément. Particulièrement intéressée par les langues et les cultures du monde, j'ai décidé à l'âge de 45 ans de reprendre des études et je suis spécialisée dans le domaine de la didactique des langues et des cultures. Particulièrement intéressée par le bilinguisme et par l'enseignement précoce des langues. Quelques faits marquants de ma vie, moi qui avais refusé d'apprendre l'allemand dans ma jeunesse, parce que je trouvais à l'époque que c'était une langue très laide, eh bien voilà, je suis tombée amoureuse à 25 ans d'un allemand, j'ai donc vécu 5 ans en Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne avec le mur et le rideau de fer. Deuxième coup de cœur à 57 ans, qui m'a fait partir au Sénégal, j'ai vécu 3 ans dans un petit village de Casamance. La Casamance, c'est le grenier du Sénégal, au sud du pays. Sinon, dans ma jeunesse, oui, j'étais allée en Norvège. En 2015, je suis allée au Chili. Dans le cadre professionnel, je suis allée en Hongrie. Des voyages plus classiques. Mais désormais, je voyage un peu autrement parce que je voyage chez l'habitant. Je rentre d'Italie, où j'ai passé 6 mois. Ce type de voyage, j'ai commencé en 2016. La Toscane, 2 semaines pour cueillir les olives. L'Inde, l'année suivante. Une ferme dans la montagne, un café vegan dans la grande ville de Mysore. Espagne-Portugal 2 fois pendant 4 mois. Et l'Italie cette année pendant 6 mois.
Alors justement, vous nous parlez de ces voyages grâce à des dispositifs hors cadre. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur ces manières de voyager, donc notamment Woofing et Workaway ?
Alors, je vais vous parler de ce que je connais. Je connais 3 sites. HelpX, qui s'écrit Help, au secours, X. Woofing et Workaway. HelpX, je l'ai utilisé, mais comme je trouve que le Workaway, le site est mieux fait, donc je me suis axée plutôt sur ce mode de recherche. Woofing, c'est très intéressant. L'acronyme WW2OF veut dire Worldwide Opportunities on Organic Farms, c'est-à-dire la possibilité de travailler dans des fermes bio dans le monde entier. Nous avons chaque pays qui a une fédération de woofing. Tandis que le site Workaway, lui, il est international. Vous avez un seul site pour travailler dans le monde entier. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, si vous ne parlez pas bien anglais, le site Workaway est en anglais. Ça peut être un problème pour certains d'entre vous. Le woofing, c'est si on est particulièrement intéressé par la bio, travailler dans des fermes biologiques. Donc, voilà, ça dépend un petit peu de qui vous êtes et de ce que vous cherchez.
Alors, vous parlez de travail, mais on est plutôt sur du bénévolat, loger et nourrir, de l'échange de services, c'est bien ça ?
Voilà, j'ai mal choisi mon mot, en fait. C'est une aide. Une aide avec l'idée d'échange, en plus. C'est-à-dire qu'on arrive dans une famille, que l'on a, je vous en reparlais tout à l'heure, repéré dans le site pour son profil. On lui a écrit, elle veut bien de nous, on arrive. Donc, on s'est mis d'accord sur les modalités. En général, c'est 5 heures par jour au maximum pendant 5 jours, avec 2 jours de repos. Donc vous arrivez et vous vous êtes mis d'accord sur les tâches que vous pourriez remplir. Et voilà, par exemple, cette année, je suis arrivée dans une ferme. Donc j'ai nourri les animaux, j'ai vidé la stalle de fumier, j'ai plumé des poulets et des pigeons. Voilà, je le savais à l'avance. Dans la deuxième famille, non. J'ai fait de la peinture de meubles d'extérieur. Vous voyez, vous faites selon ce que vous avez décidé avec la famille. Et la troisième famille, c'était du jardinage. Donc voilà, vous aidez. Les gens s'engagent pratiquement à vous apporter quelque chose aussi, par exemple des conseils où ils sortent avec vous quelquefois, voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter ? Une aide linguistique, bien sûr, sans rémunération aucune. Vous êtes nourri et vous êtes logé. Là, il faudra faire attention, hein, parce qu'il y a des petites exceptions. Il faut bien lire entre les lignes. Parfois, on vous dit que vous aurez un repas dans la journée. Bon, ça, c'est au moment de la recherche, il faut être très très précis dans vos lectures.
Donc, c'est des dispositifs assez flexibles où on est en directe interaction avec les autres.
Exactement. Alors, c'est un contrat tacite, c'est-à-dire que vous pouvez le rompre. Hein. Si vous êtes mal chez quelqu'un, vous partez. Et vice-versa. Alors, attention, conséquence, puisque dans les sites, il y a des commentaires sur les hôtes qui reçoivent, vous pouvez avoir un mauvais commentaire. Cette année, mon dernier hôte était un ancien général des chasseurs alpins de 80 ans, assez autoritaire, hein, ça n'était pas facile. J'ai envisagé de partir. Et puis finalement, je me suis dit, il va me mettre un mauvais commentaire sur le site, ça va me défavoriser. Et puis bon, finalement, j'ai tenu le coup, quoi. Mais parfois, ça peut se révéler un petit peu difficile. Ce sont des rencontres de personnalité. Parfois, je lis, moi, les commentaires des autres. Ça ne m'est pas arrivé, mais l'hébergement n'est pas satisfaisant. Ou la personne s'était imaginé quelque chose et ça n'est pas du tout ce qu'elle avait pensé. Je pense à ces petites jeunes filles de Finlande, en Sicile, qui ont pensé aller à la plage. Ah oui, mais elles étaient dans la montagne, donc... non motorisé. Moi, je pars en voiture, donc moi, j'ai le privilège de faire tout ce que je veux. Mais souvent, les jeunes, si vous êtes jeune, vous arrivez avec votre sac à dos. Donc, il faut bien se renseigner sur la situation géographique de votre hôte. Voilà.
Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un certain profil pour apprécier ces dispositifs et ces modes de mobilité, ou tout le monde peut finalement y trouver son compte ?
Il faut vraiment vous connaître. Je vous dis, regardez bien bien l'hébergement. Par exemple, moi, je ne veux pas coucher sous une tente. Mais j'ai couché dans une petite roulotte cette année. Pensant que ce serait 2 semaines, j'ai accepté le lit dans la cuisine, à côté des poulets suspendus que nous avions préparés dans la journée. Mais je suis restée 3 mois à cause du confinement. Donc voilà, c'était particulier. Parfois, ça n'est pas très bien chauffé. Donc moi, je suis équipée, j'arrive bien couverte. Parce que je pars quelquefois en novembre. Alors évidemment, en Espagne, au Portugal, où les maisons sont bien moins chauffées que chez nous, il faut prévoir le coup. Alors, il y a des gens difficiles pour la nourriture. Là, ou alors vous prévoyez de compléter. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes. Moi, ça n'est pas mon cas. Oui, il faut une souplesse, une ouverture d'esprit. Beaucoup de mes amis me disent, je ne pourrais pas faire comme toi. Mais moi, c'est ce que ça m'apporte tellement que ça compense ces quelques difficultés que je pourrais peut-être avoir. Et puis, vous profiterez vraiment du voyage si, au niveau de la langue, vous choisissez votre famille. Regardez bien quelle langue parle la famille et ayez au moins une langue commune. Parce que sinon, la communication va être très difficile. Déjà, vous n'apprendrez rien sur le pays, sur la façon de vivre des gens. Et en plus, vous ne vous comprendrez pas au niveau des consignes. Donc, voilà.
Quand vous planifiez votre voyage, est-ce que vous choisissez d'abord la destination ou d'abord la mission? Et pourquoi?
Ah, je trouve la question très intéressante parce que c'est en train de changer. Quand, au départ, voilà, j'arrive en Italie, je veux voir ceci, cela, alors je cherche mes familles dans les régions correspondantes. Et finalement, c'est l'idée touristique qui domine. Et puis la famille est un support, on peut le faire. Mais je suis en train vraiment de changer et de me dire, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la rencontre avec cette famille, leurs amis et la région, la découverte. Donc j'ai décidé de rester plus longtemps. Je suis restée par hasard 3 mois et j'ai trouvé ça très bien finalement, parce qu'on va beaucoup plus loin dans la rencontre humaine. Par contre, l'hôte, il sent si vous êtes là uniquement pour profiter du... Et ça, ils n'aiment pas trop ça. Et ils aiment vraiment penser qu'on vient pour les aider, pour faire connaissance. Regardez bien, lisez bien les profils, il y a un descriptif de la personne, ce qu'elle attend, et vous pouvez un petit peu imaginer la personnalité. Lisez bien les commentaires, et vous allez aussi savoir. Et voyez si vous pensez que vous pouvez vous entendre avec une personne et répondre à ses attentes.
Alors, vous êtes parti dans de nombreux pays seuls. Est-ce que vous auriez peut-être des petits conseils pour ceux qui souhaitent partir en solitaire ?
C'est-à-dire qu'il faut vous connaître parce qu'il y a justement des moments de solitude, parce que la famille travaille, on vous reçoit de temps en temps, plus ou moins selon les familles. Il faut quand même savoir si vous êtes capable d'avoir des moments où vous serez seul. Le site Workaway, par exemple. Le site Workaway, WORKAWAY, le site propose de contacter d'autres personnes qui sont en voyage dans votre région. Donc déjà. Et puis, vous avez aussi un last minute, c'est-à-dire que si ça se passe mal, eh bien, vous pourrez quitter et vous chercher rapidement une autre famille. Bon, il ne faut pas penser à ça parce que ça n'est pas la majorité, mais ça fait partie des cas de figure.
Alors, vous parliez de votre voyage en Italie qui s'est fait sur fond de crise sanitaire. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience ?
Pour moi, finalement, dans ma petite ferme, dans la montagne, ça a été facile. Hein. Je pouvais sortir, me promener avec un chien. Au bout de 2 mois et 1 semaine, on avait le droit de sortir dans la région. J'étais la seule touriste. J'ai eu l'Italie pour moi jusqu'au 10 juillet. Idem, en Sicile. Je suis arrivée à Syracuse où m'attendait ma deuxième famille. Bon, les masques partout. Enfin, je l'ai vécu, je crois, comme je l'aurais vécu en France, hein. Moi, j'ai eu un plus, c'est que du coup, je n'ai pas eu le flot touristique. C'était une... Malheureusement, sur fond d'amertume de voir tous ces commerçants qui attendaient des clients et toutes ces tables vides. Il y avait un côté psychologiquement difficile, mais à titre personnel, oui, ça a été... Voilà, je n'ai pas mal vécu.
Est-ce que vous avez, parce qu'on voit vos expériences plus en mode aventurière et puis en immersion, est-ce que vous faites également des voyages à l'étranger en mode vraiment touriste ou vous souhaitez toujours vous impliquer d'une manière ou d'une autre dans le mode de vie local?
Ah mais j'ai jamais pu vraiment voyager sous la forme touristique. Parce que je trouve que c'est tellement limité. Bien sûr, on voit les monuments, on voit les lieux remarquables. On passe à côté des gens, qui sont-ils? Et d'ailleurs, dans les lieux touristiques, les Italiens ne sont pas les Italiens que j'ai rencontrés. Vous allez en Toscane, les commerçants, tout ça, ils ont des façons de vivre stéréotypées, ils s'adressent aux clients. Donc non, moi je rêve de rentrer dans les familles, de savoir ce qu'ils pensent et pourquoi ceci et comment on cuisine cela. Je ne sais pas si j'ai déjà voyagé sous forme touristique, mais en tout cas je ne pourrais plus le faire.
Et est-ce que vous auriez une anecdote amusante ou pas sur un de vos voyages à l'étranger et en Europe?
Alors, amusante peut-être pas, mais j'ai vraiment vécu des choses très très fortes. Bon, j'en choisirai une quand j'étais en Inde, dans la ferme, dans les montagnes, non loin de Pondichéry, et qu'il y a eu ce qu'on appelle une puja, une cérémonie religieuse, et que j'ai eu la chance que la famille me propose d'y aller. Ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le prêtre a voulu m'honorer, m'a placé en face de lui, et j'ai suivi tous les rituels avec les fleurs, les odeurs, les incantations. Et après, mes hôtes parlant bien anglais, j'ai pu savoir que ça représentait une cérémonie à la fois pour remercier les dieux, ils en ont plusieurs, hein, le leur en tout cas, et pour demander aussi d'autres choses. Et ça, ce sont des universaux, des religions. C'est ce qui est passionnant quand on voyage, c'est de voir les différences et les similitudes.
Alors, vous avez également travaillé à l'étranger. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ces expériences?
C'est-à-dire qu'à l'âge de 25 ans, je suis partie en Allemagne. Bon, là, j'ai vraiment travaillé. C'est-à-dire que j'enseignais le français. J'ai été formée comme guide pour recevoir les scolaires à Berlin sur les hauts lieux du nazisme. Non, c'était passionnant. Bon, j'ai travaillé au début dans des cafés, comme caissière de supermarché parce que je n'avais pas encore trouvé le job de prof, quoi. Bon, ben oui, il y a un peu de précarité, hein, quand vous arrivez quelque part. C'est-à-dire que si vous avez la motivation, l'âme un peu... Moi, j'ai une âme d'ethnographe. J'ai envie de savoir, de comprendre, mais dans la finesse. Hein. Attention de ne pas tomber dans la surgénéralisation, les préjugés, les clichés. Ça demande une ouverture d'esprit, beaucoup de tolérance et de sortir de ce qu'on appelle notre ethnocentrisme. Parce que ce qui est normal pour nous, c'est notre façon de vivre. Ben, chacun a sa normalité. Donc voilà, ça c'est... Oui, ce sont des... On vit des moments très forts dans ce type de voyage si on est chez l'habitant.
Alors pour finir, est-ce que vous auriez un petit message à faire passer aux auditeurs?
Ben, je vous conseille de tenter l'aventure. Vous pouvez ne pas aller trop loin au début, faire seulement 2-3 semaines, et puis après, vous verrez. Moi, j'ai commencé avec 2 semaines, je finis avec 6 mois chaque année. Et en attendant de partir en voyage, mais vous avez à Muré-Rignier le bistrot des citoyens du monde qui, justement, vous propose, par exemple, une fois par mois, le voyage gustatif avec des repas du pays qui a été choisi, des animations, des informations. Et par exemple, moi j'animerai au BCM, puisqu'on appelle le BCM le Bistrot des Citoyens du Monde à Muré-Rignier, j'animerai le 5 décembre une soirée sur l'Allemagne.
Le message est passé. Ben, merci beaucoup Claudine pour avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne continuation à Muré-Rignier, mais aussi dans vos futurs voyages et missions. Et on espère que cette émission aura donné envie aux auditeurs de voyager différemment. L'Europe dans le micro, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'Europe dans le micro dans 2 semaines avec l'association Parcours le Monde Grand Ouest.